Bonjour à tous, chers amis. C'est Shabbat, sort de Sefer. On sort bien sûr la paracha Shmini, la paracha qui nous parle de la kashrut, la paracha qui nous parle de l'inauguration du temple. On a déjà eu plusieurs cours dessus cette semaine. On peut revoir sur l'application etora.fr. Et on sort aussi un deuxième Sefer Torah qui est sur Achodesh. Achodesh, puisque chaque Shabbat, chaque année qui précède Rosh Chodesh Nissan, et ce Shabbat, on bénit le mois Nissan. Shabbat Mevachim, on a l'habitude de lire toujours le paragraphe de Chodesh dans lequel on a le premier commandement que Dieu a donné au peuple juif de faire un calendrier et de se préparer pour la sortie d'Égypte. Et on sait très bien, comme on l'a vu dans le cours cette semaine, mardi, qu'on peut revoir sur la Torah. Pourquoi un double calendrier? Pourquoi on a le calendrier que d'un côté on te dit Chodesh Tishri, c'est le début de l'année, Rosh Hashanah, alors que le mois de Nissan, c'est le premier des mois. Rishanu Lachem le Chodesh Hashanah, c'est ce qu'on va lire justement Shabbat. Ça, on aura le temps. Revoir sur les Torah. Aujourd'hui, on va voir le discours que la Rabbi a prononcé aussi aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de la Rabbanit Chaya Mouchka. C'est combien la Rabbi a valorisé cette date. En 1988, a lancé la campagne de fêter son anniversaire, 36 ans. On va voir aujourd'hui quelle est la valeur et qu'est-ce que vaut, pourquoi Dieu a demandé au peuple juif de faire deux mitzvot avant de sortir d'Égypte, et que sans ça, on ne pouvait pas être prêt à sortir d'Égypte. Alors, le discours que la Bible a prononcé en 1977. Et on va voir pourquoi juste particulièrement ces deux mitzvot et pas autre chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce Shabbat, on sort de Sfarim, Parashat Bo et Parashat Shmini et Parashat Achodesh, qui vient dans la Parashat Bo. Après les neuf plaies que Dieu envoie sur les Égyptiens, on est sur la lane et ligne droite avant de sortir d'Égypte. Dieu il vient et dit à Moshe, chapitre 12, versets 1, 2, 3, 5, 8, 11, 14. Dieu lui dit, par le peuple juif, le dixième du mois, prenez chacun un mouton, sept, amim, zacha, ben shana, d'un an, et vous devrez le garder jusqu'au quatorzième du mois, veille de Pessah, et à ce moment-là, vous devrez le sacrifier. Vous devrez prendre du sang, le mettre sur l'asperger, sur les deux poteaux, les deux linteaux, et le linteau qu'il y a dans les maisons, et vous devrez manger cette corban Pessah, cet agneau pascal, grillé avec des matzot et les herbes amères, etc., etc., en étant prêt de pouvoir partir. C'était les premières grillades organisées. De là, les Tunisiens organisent la veille de Pessah pour se rappeler du Kagama de Pessah, des grillades. Mais ce n'est pas forcément qu'ils ont besoin d'avoir des raisons principales pour organiser des grillades, puisque chaque instant qu'ils peuvent, ils organisent des grillades en rapport avec le Kagama de Pessah. Et la Torah continue en te disant, je vais passer en Égypte ce soir-là et je vais taper tous les premiers-nés égyptiens. Et le sang sur les linteaux rappellera le fait que c'est une maison juive et qu'il ne faut pas frapper sur cette maison. Et cette fête sera un souvenir pour vous. Ça veut dire que Dieu dit, si on peut dire, il a besoin d'un signe, d'un symbole GPS ou d'un infrarouge.
Pardon, la passion de son appareil, il est jaloux.
Que si jamais, il n'y a pas le sang sur les linteaux, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils ne pourront pas... on pourra faire une erreur, on pourra penser que ce n'est pas une maison juive, on pourra penser que c'est une maison égyptienne. Eh bien, la Torah te dit, pour se rappeler du fait que c'est une maison juive, comme si on peut dire que Dieu ne sait pas faire la distinction, il ne sait pas faire la différence. Pour ça, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle le sang sur les linteaux. Et bien sûr que Moshe transmet les choses au peuple juif, et ils sont tellement heureux de pouvoir faire cette mitzvah. Finalement, ils vont sortir d'Égypte et ils vont se précipiter pour faire le sacrifice. Viens Rashi. Rashi sur la paracha et vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vaya lachem le mishmeret. Vous devez garder cet agneau pendant 4 jours. Pourquoi on devait le garder pendant 4 jours? Rashi te dit, pour s'assurer qu'il n'a pas de défaut. Et là, la Torah te demande la question, pourquoi il fallait prendre l'agneau? Pourquoi il fallait prendre ce mouton 4 jours avant? Alors qu'on n'a pas vu ça dans le Pessah de toutes les générations. Rabbi Matya ben Harash était dit, c'est arrivé le moment que j'ai décidé de pouvoir maintenant libérer le peuple juif comme Dieu l'a juré à Abraham. Le peuple juif n'avait pas de mitzvot dans ses mains, comme c'est écrit à Terambéaïa, c'était totalement nu de mitzvot. Dieu leur a donné deux commandements, le sang de Pessah et le sang de la circoncision. Comme ils ont fait ce soir-là.
Depuis Jacob.
J'ai pas entendu, hein?
La circoncision depuis Jacob.
Depuis Jacob. Non, mais là, c'était qu'ils étaient totalement assimilés. Il n'y avait plus les tribus, etc. Ils étaient totalement assimilés en Égypte. Ils n'avaient aucune mitzvah, comme c'est écrit dans la dernière ligne que tu as. Yishtufim be'elilim, ils étaient tellement dépendants de tous les idolatries. Dieu leur a dit, Mishru kolakrem, débarrassez-vous des idolatries. Et prenez un mouton pour faire avec ça une mitzvah. Midrash Rabbah te dit, la source 2, tourne la page, qu'en rapport, on était en exil en Égypte. Il y avait seulement les Lévi'im, la réponse à ta question, qui ont fait la Brit Mila. Mais tout le reste du peuple juif n'avait pas fait. Et c'est pour ça que pour la sortie d'Égypte, le peuple juif avait le devoir de se circoncire et d'amener le sacrifice de l'agneau pascal. Et grâce à ça, Dieu il les a, si on peut dire, adoptés. Rabotein ou Ambrou, Rachamim nous disent, nos sages, l'obicho Israël, amour de Mitzraim. À l'époque, en Égypte, le peuple juif ne s'est pas circoncis. Tout le monde n'a pas fait cette mitzvah, à part la tribu de Lévi. Dieu voulait les libérer, mais ils n'avaient pas de mérite. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a dit à Moshe, va les circoncire. Il y en a qui disent qu'il y avait Yeshua qui les a circoncis. En tout cas, on a eu ces deux mitzvot. La mitzvah de la circoncision et la mitzvah de l'agneau pascal. On vient de voir ce que le Midrash te dit, que Rabbi Matia ben Charash te dit, que Dieu leur a donné deux mitzvot parce qu'ils étaient dans une situation qui était considérée nue de mitzvot. Ils n'avaient aucune mitzvah avec eux. Et là, il y a deux questions. Première question, pourquoi avoir eu besoin de deux mitzvot? Si c'est pour enlever le fait qu'ils étaient nus de mitzvot et qu'ils n'avaient aucune mitzvot pas dans leurs mains, ça suffit de leur donner une mitzvot. Ici, Dieu il veut leur donner la possibilité de se rhabiller, d'avoir des mitzvot. Pourquoi que deux? Pourquoi leur pas donner plus? Quel était le but? En plus, on dit tous les jours dans la prière, le Fichach Iba Lahem Torah Mitzvot, Ratzah Kadesh Baruch Hu Lezakot Et Israël. Dieu a voulu donner du mérite au peuple juif. Pour ça, il a donné beaucoup de mitzvot. C'est très bien que le judaïsme est composé de 613 commandements. Et donc, ces deux mitzvot ne sont même pas 1% des mitzvot. Si l'idée, c'est de déconnecter le peuple juif de l'idolâtrie, si c'est de leur rapprocher à Dieu, alors, une mitzvah suffirait. Et si tu dis que Dieu voulait les habiller, habiller, c'est pas en mettant le minimum syndical. Donne la majorité, donne beaucoup de mitzvot, donne beaucoup de choses à faire. Alors oui, tu expliques. En réalité, ces deux mitzvot venaient représenter, refléter l'ensemble des mitzvot en quoi? Du fait qu'on a le devoir de faire ce qu'on appelle Soumera et Aseitov. S'éloigner du bien, du mal et faire le bien. D'abord, il leur manquait le fait de Aseitov. Qu'est-ce que ça veut dire Aseitov? Faire une mitzvot positive. Et donc, ils ne pouvaient pas s'approcher à pouvoir servir Dieu, sur le mont Sinaï, que grâce à ça, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il en manquait aussi dans ce qui est le Soumera, qui veut dire qu'ils étaient tellement gangrénés de toute la pureté, de toute cette nudité d'Égypte, du mal qu'il y avait en Égypte. Et donc, ils devaient d'abord se débarrasser du mal, parce que sans ça, on ne pouvait pas les libérer d'Égypte. Une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, sortir d'Égypte avec le mal de l'Égypte, c'est comme si tu sors avec le même virus. Ça ne va pas te guérir, tu ne vas pas pouvoir guérir. C'est pour ça que Dieu leur a donné deux mitzvot. Une mitzvah qui agit en termes de asetov, faire le bien. Ça, c'était quoi? C'était la circoncision. Qui faisait faire que le peuple juif rentre en alliance avec Dieu. Une autre mitzvah, qui est la mitzvah de Soumera, s'éloigner du mal, se débarrasser du mal d'Égypte. Ça, c'était le sacrifice de l'agneau pascal. Donc, ces deux mitzvot viennent représenter les deux catégories majeures de tout ce qu'on a dans les mitzvot. Ce qu'on appelle la catégorie des 613 commandements. On a 248 mitzvot positifs et 365 mitzvot négatifs. La Brit Mila, la circoncision, c'était la mitzvot positive qui rattache l'homme avec Dieu. Sacrifice de l'agneau pascal, c'est une mitzvah active. Mais le but, c'était en réalité de se déconnecter de tout ce qui était l'idolâtrie avec laquelle ils ont vécu en Égypte, l'idolâtrie égyptienne. Alors maintenant, entrons dans les détails. En quoi c'est des antibiotiques contre l'idolâtrie? Quel rapport du sacrifice de l'agneau pascal avec s'éloigner du mal? Viens Rashi, comme on vient de voir, Rashi te dit, Shayush Tufim Beilelim. Ils étaient totalement imprégnés dans tout ce qui est le mal. La pastis. Ils étaient totalement imprégnés dans ce qui est le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, c'était imprégné? Ils étaient vraiment mélangés, ils étaient jusqu'à par-dessus la tête avec tout ce qui est l'idolâtrie. Dieu leur a dit, Mishru Kolachem, débarrassez-vous de l'idolâtrie et prenez un mouton pour faire avec ça un sacrifice. Pessah. À faire en sorte d'annuler ce que le peuple juif, il était ch'toufim. La Torah ne te dit pas, le Midrash ne te dit pas, ils étaient juste habitués à l'idolâtrie. Ils étaient ch'toufim, ils étaient vraiment enveloppés, englobés, ils étaient totalement jusqu'à par-dessus la tête avec l'idolâtrie. Ce n'était pas juste qu'il y avait un peu d'idolâtrie. On a appris dans la paracha Vaera déjà que le tson, le bétail, surtout le mouton en Égypte, c'était l'idolâtrie d'Égypte. Donc le fait même de prendre le mouton qui était l'idolâtrie d'Égypte, ça a fait montrer aux Égyptiens qu'on n'a pas peur de comprendre leur idole. On l'attache au lit pendant 4 jours, et quand ils viennent demander qu'est-ce que vous faites avec, on va l'amener en sacrifice pour Dieu, parce que Dieu l'a demandé d'amener un sacrifice au 14e. Ça, c'était un moyen de se déconnecter de tout ce qui était l'idolâtrie. Et le fait de l'amener en tant que sacrifice pour Dieu, c'était justement le contraire même de ce qui était chez eux l'idole, comme on sait qu'en Inde, par exemple, aujourd'hui, la vache, c'est une idole, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut valoriser, etc., etc. Donc, c'était à peu près la même chose en Égypte, même plus que ça. Le fait de l'avoir pris pour l'amener à Dieu en tant que sacrifice, tout d'un coup, Ça les a déconnectés de ces idolâtries qui sont égyptiennes pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et le Midrash, il te dit, comment il vient te décrire, tu es dans la page 6, c'est comment c'était tellement inimaginable aux yeux des Juifs à l'époque de faire un tel acte qui aurait pu être un acte de rebelle, un acte de, va savoir, de malheur face aux yeux égyptiens.
Qui vont après les 10 plaies.
Très bien, mais c'est-à-dire que tu prends le Dieu des Égyptiens devant eux, tu vas les gorger. Regarde ce que le Midrash dit.
Ils sont déjà dans un état déjà catastrophique, déjà.
Mishkou Kulachem, Midrash te dit. Quand on te dit retirez-vous et prenez le mouton, c'est ce qui est écrit, et vos choukolov de Fessel, ce qui est écrit dans Tehilim 97. Misha, Shama, Kadosh Baruch, le Moshe, l'Ishkata Pesach. Quand Dieu a dit à Moshe d'amener sacrifier le sacrifice de l'année Pascal. Amar, la haine, Moshe, Moshe, il a débattu avec Dieu, lui a dit, Ribono, l'ami, maître du monde. Adavar, Aze, Echani, Achol, Asot. Comment je peux leur demander, comment je peux même oser leur demander d'amener un sacrifice de l'année Pascal? Iata Yoder, Moshe, il dit à Dieu, est-ce que tu ne sais pas? Shatson, Elokem, Shemitzraim. Que le mouton, c'est l'idolâtrie d'Égypte. Shenema, comme c'est écrit, En Nizbach et Toavat Mitzrayim, le Nev, le Iskelounou. Comme c'est écrit dans le Chumash, chapitre 8, verset 22, quoi, on va amener ce sacrifice aux yeux des Égyptiens et ils ne vont pas nous massacrer, ils ne vont pas nous lapider. Moshe, il a débattu avec Dieu. Moshe, pour lui, c'était quelque chose qui était impensable. Je ne peux pas prendre le Dieu des Égyptiens et la mettre pour Dieu en face à leurs yeux. Malheur, Kadosh Baruch Hu. Dieu, il a répondu à Moshe à cet étonnement. Chayecha, je te promets. En Israël, Yatsim Mikan, le peuple juif ne sortira pas d'Égypte. Ach Yishratu et Elohim Yitzraim Lenem, jusqu'à ce qu'ils vont égorger le Dieu des Égyptiens devant leurs yeux. Sheodi Alaim Shenelaim Klum, pour leur faire savoir que leur Dieu ne vaut rien. Et le Midrash termine. Chen Matsin Rishasa, c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé. Shevot Alaïla, cette nuit-là. Ika Proverem Shem Yitzraim, Dieu l'a frappé les premiers-nés. Ou bien, là, il a cette même nuit, Shachatou, Israël, Israël, ils ont égorgé les moutons, le sacrifice de l'agneau pascal. Ils les ont mangés. Vayou, Amitzrim, Roim. Les Égyptiens, ils ont vu avec leurs propres yeux. Bechore, Marugim, le premier né tué. Elohen, Shrutim, leur Dieu égorgé. Vouloyou, Icholim, la Sotkou. Vous ne pouvez absolument rien faire. Shenemar, comme c'est écrit dans le Chumash de Midbar, chapitre 33. Au Mitzrayim et Kabrim, les Égyptiens, ils enterraient tout ce que Dieu a frappé les premiers-nés. Au Belohem, à Sabahem Shvatim, ce qu'on dit dans la Gada. Et dans leur Dieu, Dieu, il a fait, il a mis de l'ordre. En deux mots, il a mis à leur place. Et ça, c'était la manière de se désengager, de se déconnecter de l'idolâtrie d'Égypte. Rabbi continue en te disant, maintenant on va comprendre. Pourquoi il fallait avoir 4 jours avant la Shrita, 4 jours avant d'abattre le sacrifice de l'année pascal. Puisque le peuple juif n'était pas juste un peuple qui a fait l'idolâtrie une fois, mais ils étaient totalement enveloppés, englobés dans l'idolâtrie. On avait besoin de faire quelque chose qui va les déraciner le fait qu'ils étaient totalement ensevelis dans cette idolâtrie. S'ils auraient pris cette idolâtrie, s'ils l'auraient pris et ils l'auraient tué tout de suite, ça veut dire, ils l'auraient abattu tout de suite avec un instant, il prend un mouton et il le tue tout de suite. Pas suffisant pour apprendre et pour pouvoir se déconnecter du fait qu'ils étaient ensevelis dans l'idolâtrie. Le fait que le mouton, qui était la crainte égyptienne, qui était le dieu des Égyptiens, était dans leurs mains pendant un certain temps, 4 jours. Ça pouvait annuler la situation dans laquelle, jusqu'à présent, ils étaient totalement ensevelis dans l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'ils devaient le garder 4 jours. Pourquoi 4 jours? Rashi te rappelle ce qu'on a vu dans la Akeda, dans le sacrifice d'Yitzhak. Que Dieu, il a montré l'endroit de la Akeda à Yitzhak, seulement à Abraham, seulement le 3e jour. Pour pas qu'on dise, il n'a pas eu le temps de méditer, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Dieu, il a dit, viens prendre ton fils et maintenant le sacrifice. Paf, il a pris, il est parti. Non. Que ça s'assoit sur toi, réfléchis, médite. Après 3 jours, la personne elle a pris conscience. Et là, il est prêt à le faire. On voit aussi comment Dieu l'a demandé, comme, si on peut dire, il a fait traîner Abraham pendant 4 jours. Pour que les gens ne disent pas qu'il a eu un choc et qu'il n'avait pas le choix et qu'il était obligé de l'amener directement. On voit ça, dans la page 7 d'ailleurs, Machlich et Bereshit, chapitre 22. Vaïssa, Abraham et Ténav, on voit comment Dieu, Abraham, il a levé ses yeux. Vaïa et Tamakom et Rachok, et il a vu les choses de loin. Viens Rashi. Rashi te dit, Bayom Ashlishi. Pourquoi l'âme a écher? Pourquoi Dieu, il a attendu, mais il a retourné? Pourquoi il n'a pas montré le mouton ou il n'a pas montré tout de suite l'endroit où il devait amener d'abord Yitzhak en sacrifice? Que Desh Eloy Ambrou, pour pas que les gens disent, Ah maman, viens, bébé, pitom, et t'as il est devenu complètement fou. Il a fait un choc avec cette nouvelle de lui demander de sacrifier son fils. Vehilo Ayash Lo Shaout, si jamais il aurait eu le temps. Les malheurs, les mots de se conseiller, de décider, de réfléchir, là, il ne l'aurait pas fait. Vient le Gouraï, sur Rashi, Et tu dis, le fichar, c'est pour ça, chagimel yamim, fallait attendre 3 jours. Comme on sait très bien que la Torah te donne beaucoup de choses en référence à 3 jours. On voit par exemple à la tefila, que la Torah te dit que chez Da'ato, chez la dame, Einam et Yushev et Talaf, que quelqu'un n'arrive pas à se concentrer tranquillement, ad yom shlishi bevo minader, jusqu'au 3e jour après qu'il a fait une longue route. Ah mais il commence à revenir à lui-même, parce que chez la route, parce que dans la route, il est totalement perturbé. C'est que Dieu, il a testé Abraham avec 10 épreuves. Et à chaque fois, il a montré qu'il a fait ce que Dieu a demandé de lui. La dernière épreuve, qui était la plus dure, le sacrifice de son fils, la Torah nous dit qu'il a demandé à prendre Yitzhak et d'amener Aaron à Moria, le mont Moria, le mont du Temple, pour le nom sans sacrifice. Tout celui qui battait en Israël, Abraham, il habitait à Hebron. De Hebron, à aller au mont Moria, aujourd'hui, c'est 25 minutes de route. C'est pas loin. 25 minutes, 30 minutes, ça dépend avec les barrages, tout ce que tu veux. Mais dans le matin, il s'est levé très tôt pour aller faire la misère que Dieu lui a donnée. Il est parti en route. Seulement le 3e jour, la Torah nous dit qu'Abraham, il a levé les yeux, il a vu cette montagne, il a vu ce nuage qui était sur la montagne. Et là, il a reconnu la Aramoria dans laquelle il va pouvoir amener le sacrifice. Rachid demande pourquoi Dieu l'a attendu de lui montrer le 3e jour.
C'est loin.
Comme c'est très bien. C'est pas loin de Hebron à Jérusalem, même en chameau, même en âne. Comme il est parti, ou aujourd'hui en chameau, ce que tu veux, ça prend quelques heures. C'est pas le bout du monde, c'est pas des centaines de kilomètres. Viens, Rachid. Rachid te dit, justement, pour pas que les gens disent qu'il est devenu complètement fou, Dieu lui a demandé de faire quelque chose.
Sans réfléchir.
Il a décidé, je fonce, et après il va regretter. Parce que tu peux dire qu'il était totalement perturbé, bouleversé de la demande que Dieu lui a demandé. Dieu l'a attendu 3 jours pour qu'il puisse méditer tranquillement, réfléchir tranquillement et faire les choses avec la tête claire. Et avec ça, il montre au monde entier qu'il est d'accord, totalement en phase avec ce qu'il fait pour faire la volonté de Dieu. Et donc on voit dans l'histoire de la Akeda que le temps qu'on a besoin pour que quelqu'un réfléchisse, médite, pour pouvoir s'assurer qu'il fait les choses correctement, c'est 4 jours. Vous avez Dieu l'a attendu jusqu'au 4e jour pour lui montrer l'endroit. Premier jour, il a eu la demande. Le lendemain matin, il s'est levé, et 3 jours plus tard, il a montré l'endroit où il fallait amener le sacrifice. C'est pour ça qu'ici, dans la paracha, quand Dieu demande à Moshe d'attendre 4 jours, de dire au peuple juif d'attendre 4 jours avant d'amener le sacrifice, c'est la même chose. D'attacher le mouton en lit pendant 4 jours. Parce que pendant ces 4 jours, il y a des Égyptiens qui rentrent dans la maison, qui ressortent, et ils commencent à réaliser et comprendre, oui, on prend leur Dieu pour l'amener en sacrifice. Et on ne le considère plus comme un Dieu. C'était pour montrer justement que ça a été fait avec accord, avec méditation, ça n'a pas été fait d'une manière comme si elle va vite, sans réfléchir. Rabbi termine en te disant, c'est très bien que Rachid ne mène pas en général le nom de la personne qui te dit quelque chose et te dit un commentaire si ce n'est pas important pour l'explication, pour le sujet. Page 8. Rachid a mentionné ici le nom du Baal HaMa'amar qui s'appelait Rabbi Matia Ben Charash. Rabbi Matia Ben Charash, il avait l'habitude de dire devant ses élèves, etc. C'est écrit dans l'Agmara Sanhedrin, page 32. Que la yeshiva de Rabbi Matia Ben Charash était à Rome. Il y avait beaucoup de yeshivas à l'époque, même en Israël. Mais sa yeshiva était à Rome, qui était une des plus grandes qui existait à l'époque. C'était un tania de la 3e génération des Tanaïm. C'était le 2e siècle avant l'ère commun. Il a appris chez Rabbi Ishmael, Rabbi Lazar Ben Azaria, et ses amis, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yoshir. À cause de leur rebelle de Bar Korba et la poursuite des Romains, il est parti d'Israël et s'est installé en dehors d'Israël. Et quand ils sont partis d'Israël, ils ont regretté. Le Midrash nous raconte que quand ils sont arrivés jusqu'à Platoum, là-bas, ils se sont souvenus d'Israël. Ils ont commencé à déchirer leurs habits. Plus tard, Rabbi Matia Ben Charash a décidé de partir habiter à Rome. Et là-bas, il a fondé cette fameuse grande yeshiva qui est devenue la plus grande de son temps. Pourquoi il a fondé sa yeshiva à Rome? Quelque chose qui a fait en sorte que tous ses élèves ont dû délocaliser et venir habiter à Rome. La Gemara nous dit, Tzedek, il faut poursuivre les Chachamim où ils sont installés. D'ailleurs, Rabbi Matia a parlé à Rome. Pourquoi il n'a pas fixé sa yeshiva en Israël, comme Rabbi Akiva, l'Akiva qui était à Bnei Brak? Pour ça, on doit dire Rabbi Matia ben Charash Yomer. Il avait l'habitude toujours de consoler ses élèves sur ça qu'ils sont à Rome en disant que la Geoula dépend du fait qu'on construit une yeshiva à Rome. Qu'est-ce que c'est Rome? Rome en hébreu, c'est aussi Romi, qui vient montrer le fait qu'il était tenu de mitzvot, de s'assurer que même Rome, un endroit comme Rome, devient un endroit où on peut installer une maison d'études. Et son occupation était de là-bas, fondée en exil, un endroit dans lequel la parole de Dieu va résider pour pouvoir aider un juif. Et même un juif qui est nu de mitzvot, puisse se rapprocher de la Torah et les mitzvot, et grâce à ça, amener la Géoula. Là, on a l'enseignement pour les jours pour nos jours. On est en exil, on a la plus longue exil, la Galoute de Rome. Et c'est connu que les Chachamim nous dit déjà dans la Gemara, que toutes les dates limites sont déjà dépassées. La Gemara Sanhedrin, page 97. Alors, le peuple juif lui dit, ça fait près de 2000 ans qu'on est en Égypte, qu'on va souffrir en Égypte. Viens, Rachid, il te dit. que si c'est notre devoir, ça aurait été seulement de sortir d'exil. Depuis longtemps, on serait parti. Mais Dieu veut qu'on ne sorte pas d'exil des Mavides, mais qu'on sorte avec des mitzvot. Pas que nous, mais tout le peuple juif. Et ça, c'est la vision avec le travail du Rabbi qu'on va, dans deux semaines, fêter le 122e anniversaire. C'est qu'il a banni aujourd'hui. On voit comment l'Abbé précédent, le Rabbi, comment ils ont fait tellement d'efforts pour propager le judaïsme jusqu'à Messoud 9 et chaque négation de soi, comme on voit ici en Sénéman. Et faire des mitzvot sans limite. S'inquiéter pour chaque juif, pas seulement pour des quantités de juifs, mais pour un seul juif. Comme on a ici régulièrement un autre juif qui met le tefillin qui n'a jamais mis de sa vie, une autre belle maison. Ça, c'est ce que ça veut dire quand tu vois un juif nu de mitzvot, tu n'as pas le droit de faire comme si tu ne l'as pas vu. Quand tu vois un juif qui n'a pas de tefillin, de tzitzit ou quoi que ce soit, avec ici, toi, tu dois le recouvrir. Et pour ça, il a installé sa maison d'études, où, particulièrement en dehors d'Israël, en exil, dans la ville, un endroit où ce qu'on appelle Kol Amona Shel Romi. Pour aller chercher dans cet endroit-là des autres juifs qui sont totalement nus de mitzvot, et leur donner une mitzvah, deux mitzvot pour s'occuper avec. Puisque de cet exil, on sait très bien qu'il n'y aura pas un juif qui restera en exil, on a le devoir d'aller chercher chaque juif où il se trouve. Et c'est ce qu'on fait en Sénéman tous les jours depuis 22 ans. Ça, c'est un merveilleux discours que la Bible a prononcé sur ce Shabbat, en nous rappelant la mitzvah que Dieu l'a donnée au peuple juif, pourquoi il a donné ces deux mitzvot, et pourquoi c'est Rabbi Matthieu Ben Harash qui nous la raconte. On est à l'heure aujourd'hui, ce jour d'anniversaire de la Rabbanit, en 1984. La ville avait lancé la campagne d'imprimer les livres de Tania dans tous les endroits où il y a des juifs qui habitent. Livres de Tania, elle a imprimé le Tania dans n'importe quel endroit où il y a des juifs qui habitent. Et en 1984, je ne sais pas exactement la date, et c'était à ce moment-là des centaines et des centaines. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 éditions dans le monde, dans les endroits où il y a un juif qui habite, d'imprimer le Tania et d'apprendre là-bas, etc. Et c'était rapporté au Rabbi. En France, c'était un Vazimov qui s'occupait, c'était imprimé en Saint-Némane dans plusieurs endroits, etc. Un de ceux qui s'est occupé le plus dans le monde, c'était le Rav Zions de Brésil, qui a imprimé des milliers et des milliers de villes, pas seulement au Brésil, des villes, des villages, dans plusieurs endroits dans le monde, et à chaque fois on voyait dans les fabriques du Rabbi, il venait avec des petites armoires, avec 20 ou 30 nouveaux Tania qui venaient au Rabbi, voilà les nouvelles villes dans lesquelles on a imprimé le Tania, etc. En hiver 1984, il a parlé avec un des membres de la communauté du Brésil. Un des membres de la communauté s'est tourné vers le Rav Zions et lui a dit « Est-ce que vous pouvez envoyer la Matzah Shmura à un membre de famille qui habite au Zaïre, au Congo, en 1984 ?» Aujourd'hui, c'est le Congo. Congo, au Centrafrique. Le Rav Zions, qui à l'époque avait l'habitude d'imprimer le Tania, il a dit « Tiens, c'est une bonne opportunité pour emmener des Matzahs à des Juifs, comme on fait aujourd'hui au Shabbat 77, on envoie la Matzah en ce moment à 1500 familles dans toute la région. » Ça fait 70 ans cette année que Rabbi a lancé la campagne de s'inquiéter que chaque juif ait la matzah shmura. Il dit, tiens, j'ai une opportunité ici pour emmener des matzahs à des juifs et en même temps, imprimer le Tania dans un endroit où il y a des juifs qui habitent, qui n'étaient pas au courant jusqu'à maintenant. Il a écrit au Rabbi, en 84, et il a fait savoir ses plans d'imprimer le Tania à Zaïre, dans le pays du Zaïre, à la ville Kinshasa. Rabbi était d'accord, il avait donné sa bénédiction et son accord pour le voyage. Et lui a dit, bref, d'abord, renseigne-toi avant de partir, est-ce qu'on peut vraiment imprimer là-bas le Tania? S'ils ont les machines, etc., il va savoir, c'est... Mais aujourd'hui, c'est arrière, il n'y a plus de façon. Non, il était très proche du Rabbi, il avait l'habitude plusieurs fois de rentrer aussi visiter la rabbinite. Et plusieurs personnes comme ça, qui étaient proches du rabbinite, pouvaient parler avec la rabbinite. Avant de partir au Zaïre, il est parti visiter la rabbinite. Et lui a dit, je vais maintenant voyager au Zaïre, en Afrique, pour imprimer le Tania. La rabbinite, au départ, elle était très soucieuse, parce que le gouvernement n'est pas stable là-bas. Et les guerres, jusqu'à nos jours. Il y a là-bas avec les putsch, avec tout ce que tu veux, les présidents qu'on fait tomber, les guerres dans la rue. Mais après qu'il a écrit au Rabbi, il a dit à la Rabbanit, j'ai écrit au Rabbi, le Rabbi m'a donné la bracha. La Rabbanit l'a béni avec bon voyage. Et lui a demandé, fais attention à toi. Et quand tu reviens d'Isaïe, passe me voir. Et raconte-moi comment ça s'est passé. Il était très fraternel comme ça, très amique, très chaleureux, très soucieux de bien-être des chauffeurs. Il a voyagé à l'époque, il a fait presque le tour du monde pour arriver aux Isaïe. C'était pas comme aujourd'hui. Il est parti avec plusieurs étapes de New York à Johannesburg en Afrique du Sud. De là-bas, d'Afrique du Sud, il est parti au Zaïre. En Afrique du Sud, qu'il est arrivé, il a atterri, il a reçu un message particulier du Rabbi dans lequel le Rabbi a mentionné ce qu'il a dit dans plusieurs reprises. Que dès qu'on imprime le Tania dans un endroit, il faut faire un chiour et apprendre quelques mois une fois dans ce Tania. C'est pas qu'on a imprimé et qu'on s'en va, qu'au moins il y a un trou de Torah là-bas. Et donner la tzedaka dans un endroit, chaque endroit où il visite, et je m'enseignerai sur la tombe de mon beau-père. Il a passé l'enfer pour ce voyage, avec les vols retardés par retardés, montés, descendus, bref, jusqu'à ce qu'il arrive, qu'il est arrivé à Kinshasa, la capitale du Zaïre. Il a réussi à imprimer le Tania. Vendredi, c'était cette semaine, vendredi, veille de Varechim Rechodesh Nissan, exactement la même configuration que cette semaine, 1984, il revient au 770, et donne à Rabbi le nouveau Tania qu'il a imprimé au Zaïre avec trois autres petits Tania qu'il avait imprimé au Brésil avant de voyager en Afrique. Et il a montré des photos de gens, des personnalités qui ont participé à l'impression de Tania. Rabbi il a redonné les photos en lui disant, écrit sur les photos les noms des personnes et les lieux où ont été pris les photos. À l'époque, il n'y avait pas Google Photos, etc. Et à la fin, le Rabbi lui a demandé, est-ce que tu peux me donner l'adresse du juif que tu as imprimé chez lui, le Tania au Zaïre, pour que je lui envoie une lettre de remerciement. Voilà comment la sensibilité du Rabbi à chaque juif. Avant de l'entrée de Shabbat, le Rabbi rentre de la maison au 770. Il était devant la porte, et le Rabbi le voit et lui dit, je voulais te donner à privat et dingue, un remerciement personnel pour l'impression de Tania. Le Rabbi lui a demandé combien tu as imprimé. Il a dit, j'en ai imprimé quatre versions, quatre endroits. Je lui ai donné quatre pièces pour les mettre dans la tzaka. Le lendemain, dans les Fabringues, David avait l'habitude de donner les mâcheries à tous ceux qui ont voyagé dans les endroits loin, et particulièrement les endroits où on imprime le Tania, et qu'ils ont laissé là-bas des différents livres pour pouvoir apprendre le Tania. Et surtout qu'ils ont commencé à apprendre le Tania juste après l'impression. Nous, il est monté au Fabringues d'Arabie pour prendre la bouteille de mâcheries, et David le sourit en lui disant, retourne dans toutes les villes où tu as imprimé le Tania, pour leur amener le mâcheries que je te donne aujourd'hui. Incroyable. Mais David ne retourne pas toi-même, mais non, Zahir. Parce qu'on est juste la veille de Pessah, il y a deux semaines. Envoie-leur le mashke et la matzah avant Pessah. S'assurer qu'ils finissent de boire le mashke avant Pessah. Après Shabbat, il est parti dans la maison du Rabbi pour visiter la rabbinite. Le Rabbi lui avait demandé que quand tu reviens.
Comment il a envoyé ça en par contre ça?
Ouais, ou FedEx, ou peu importe. Il y a des moyens d'envoyer par la poste. Il avait promis d'aller voir la rabbinite pour lui raconter. Comme il lui a demandé que quand tu reviens du Zahir, tu viens me voir.
Alors
il rentre chez la rabbinite. Elle était tellement heureuse de le voir et que tout s'est bien passé. Et tout d'un coup, elle lui a demandé. Monte au premier étage, dans la maison du rabbi. C'était là-bas les chambres du rabbi, etc. Privé. Rentre dans le bureau du rabbi.
Dans sa maison?
Elle était dans sa maison. Il a un bureau au premier étage. Le rabbi te le dit.
Je monte. Jamais pas. Allez, on va aller.
En général, on ne monte pas. Mais là, la rabbi te le dit. Le rabbi te l'a dit à Rav Zinz. Monte au premier étage. Maïman, notre gazop, mon mari a dit. Quand un tel invité vient d'un tel pays. Il faut le lever, il faut le rappeler, le ramener au bureau en haut. Alors, ça, je n'avais pas à croire, parce qu'il savait très bien que les invités, en général, ils étaient seulement là au rez-de-chaussée. Personne ne montait en haut dans le bureau, dans la maison privée du rabbi. Et même le secrétaire faisait attention de ne pas monter au étage en haut. C'était vraiment l'endroit privé du rabbi de la rabbinite. Et là, le rabbi avait dit, monte dans la chambre privée du rabbi, que tu pourras prier ou demander ce que tu as besoin. Il monte là-bas dans le bureau du rabbi, il reste quelques minutes. Après ça, il redescend au rez-de-chaussée. Et là-bas, la rabbinite l'attend pour raconter qu'est-ce qui s'est passé au Zaïre, etc. Parmi les choses que la rabbinite lui a dit en 84, écoute bien. Vous savez pas ce que vous avez fait. Quel bonheur vous avez fait d'imprimer le Tanakh dans un tel pays, en Centrafrique. Irod Gezet ou Irod Gaak, vous avez planté et vous avez semé. On s'y va de Koumen Atzait, et ça va arriver un temps, à s'y va de Koumen Dot, Nashliach, qui va arriver là-bas, Nashliach. Il va même pas savoir que vous étiez passé déjà là-bas avant lui pour imprimer là-bas le Tania. La prophétie de la rabbinite s'est accomplie. Trois ans après le décès de la rabbinite en 91, Rabbi l'a nommé le Rabbi Bentolila, Shlomo Bentolila de Montréal, pour être le shliach du Rabbi au Congo. Et aujourd'hui, c'est le grand shliach de toute la Centrafrique. Aujourd'hui, il y a 12 shluchim en Centrafrique, dans 11 pays différents qui sont en Centrafrique. Zahir, Zimbabwe, tous ces autres, les Guinée, Ghana, etc. Donc, c'est pas seulement la prophétie de la rabbinite que les shluchim voyagent en Afrique qui s'est accomplie, mais son souci et les bénédictions pour tous les shluchim, particulièrement en Centrafrique, qui se sont accomplies. Que Dieu fasse qu'on mérite ce grand jour d'anniversaire de la rabbinite, de voir les bénédictions pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, et qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles avec un nouveau mois, le mois de Nissan ici. Le mois de Nissan, Chodesh Nissan, qu'on a eu la libération, on a eu la délivrance, qu'on a vu aujourd'hui pour les otages, pour la réussite de nos soldats, et que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, qu'on va replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.